Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Un podcast France Culture.
A été une année record pour l'aide publique au développement. Cette année-là, près de 211 milliards de dollars ont été versés par les pays riches, du jamais vu en 40 ans. Cependant, l'Afrique n'a pas profité de cette hausse. Avec la guerre en Ukraine et le ralentissement de l'économie mondiale, le soutien financier aux pays africains a même reculé. Et la France a annoncé le mois dernier un coup de rabot de 800 millions d'euros sur la solidarité internationale. Un recul qui inquiète les ONG et relance le débat sur l'efficacité de l'aide au développement. Pour ce troisième et dernier épisode de notre série consacrée à l'action humanitaire, nous avons invité François Bourguignon avec nous à distance, professeur émérite à l'École d'économie de Paris, enseignant à la New York University à Abu Dhabi, ancien économiste en chef puis vice-président de la Banque mondiale de 2003 à 2007. Également avec nous en studio, Vincent Pranier, chercheur en sciences de gestion à l'Institut d'administration et d'économie de l'Université Panthéon-Sorbonne, chargé d'études et d'analyse à coordination Sud, la plateforme de coordination des ONG françaises de solidarité internationale. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Miliot, Laurence Genepin, Léopold Thiévan et Inès Gender. Bonjour François Bourguignon et Vincent Pradier.
Bonjour.
Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Avant de commencer notre entretien, je précise que je suis chargée par le Studio Radio France d'un podcast pour l'Agence française de développement sur la question de la transition écologique des pays dits du Sud. Alors, aide humanitaire, aide au développement, quelle est la différence entre les deux, Vincent Pradier ?
Alors, du point de vue des organisations que je connais, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales, si je pouvais faire une métaphore, on va dire que les acteurs humanitaires ou les ONG militaires seraient plutôt des sprinteurs qui interviennent dans l'urgence et de manière rapide, alors que les ONG dites de développement seraient plutôt des marathoniens qui interviennent sur un temps long et qui, du coup, sur ces deux disciplines, on a besoin de gérer différemment le rapport à l'effort, les conditions d'intervention et la façon dont on se structure dans le temps. Donc, c'est un peu deux différences. On va dire la temporalité de l'action, c'est un peu ça qui définit la différence entre ces deux types d'acteurs. Et je dirais aussi, c'est un peu l'intention politique qu'il y a derrière ces deux types d'interventions.
C'est-à-dire
qu'on a très longtemps eu des acteurs plutôt humanitaires qui se revendiquaient d'une certaine neutralité, en tout cas se disent assez apolitiques, qui justifient leur intervention au nom d'un impératif humanitaire, sauver des vies, répondre à un certain nombre de vulnérabilités. Quant à côté, on peut avoir des acteurs dits de développement, qui s'inscrivent dans une certaine vision du monde. Je prends un exemple très concret, les ONG dites altermondialistes, qui sont plutôt des ONG de développement, elles défendent aussi une vision politique du monde qui renvoie à des agencements sociaux, démocratiques, économiques, et donc elles structurent leurs activités de manière un peu différente.
Qu'est-ce que vous en pensez, François Bourguignon ? Est-ce que ce qui fait la différence entre aide humanitaire et aide au développement, c'est à la fois la temporalité et le positionnement politique ?
Certainement la temporalité. Je pense que l'image des sprinteurs contre les marathoniens, ou vis-à-vis des marathoniens plus exactement, est une bonne image. C'est vrai, je pense que l'aide au développement est une extension, ou peut-être considérée comme une extension de l'aide humanitaire, au lieu de secourir des gens, des victimes de catastrophes naturelles ou de pandémies. L'idée est simplement de permettre à des populations qui ont des niveaux de vie extrêmement bas, d'améliorer ces niveaux de vie et de parvenir à un niveau relativement décent de subsistance. Donc, oui, effectivement, il y a une différence entre les deux approches. Néanmoins, je pense que les deux relèvent de l'humanitaire.
Et comment expliquer que certains pays choisissent de financer une aide plutôt que l'autre ? Je pense à la Chine, qui finance beaucoup l'aide au développement, mais pas du tout, je crois, l'aide humanitaire, François Bourguignon ?
Alors, d'une part, la Chine finance effectivement l'aide au développement, dans des proportions relativement réduites. Quand on regarde l'équivalent de l'aide publique au développement de la Chine par rapport au pays avancés en Europe et en Amérique du Nord, la Chine est très très en dessous. La Chine est très très présente dans le monde en développement, mais elle est plus présente par des prêts sur l'infrastructure et éventuellement par sa propre intervention dans la construction d'infrastructures dans les pays en développement que par l'aide telle qu'elle est conçue dans les pays occidentaux.
Et alors pourquoi, selon vous, Vincent Pradier, la Chine choisit-elle de miser, alors dans des proportions assez faibles, on l'a compris, sur l'aide au développement plutôt que sur l'aide humanitaire ?
Alors, je compléterai en disant que les acteurs de l'aide humanitaire, ça a été un peu expliqué hier, sont principalement des acteurs issus du monde multilatéral qui s'est constitué à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a les grandes agences humanitaires, on a les grandes ONG humanitaires. Et tous ces acteurs-là sont quand même plutôt des acteurs, on va dire, issus du monde occidental. Hein. Quand vous prenez les très grandes ONG humanitaires, elles sont toutes nées soit en Grande-Bretagne, soit en France, c'était expliqué assez bien hier. Et donc je pense qu'effectivement, la connotation humanitaire, elle est encore, à mon sens, très ancré dans une vision d'un monde très occidental. Et donc la Chine, qui, comme ça a été dit, participe peu en fait à l'aide au développement, à ce qu'on considère comme de l'aide au développement, mais qui utilise d'autres canaux de financement, de dynamique de développement, s'inscrit peu en fait dans le financement de cet écosystème de l'aide humanitaire qui, lui, est très aujourd'hui encore très financé par les pays occidentaux.
Comment l'aide au développement est-elle née, justement ? Pour le savoir, écoutez ce discours d'Harry Truman de 1949.
Il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et qui mette les avantages de notre avance scientifique et de notre progrès industriel au service de l'amélioration et de la croissance des régions sous-développées. Plus de la moitié des gens dans le monde vit dans des conditions voisines de la misère. Ils n'ont pas assez à manger. Ils sont victimes de maladies. Leur pauvreté constitue un handicap et une menace, tant pour eux que pour les régions les plus prospères. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité possède les connaissances et les compétences nécessaires pour soulager les souffrances de ces personnes. Seule la démocratie peut fournir la force vitale qui poussera les peuples du monde entier à l'action triomphante, non seulement contre leurs oppresseurs humains, mais aussi contre leurs anciens ennemis, la faim, la misère et le désespoir.
François Bourguignon, qu'est-ce que ce discours de 1949 de Truman nous dit sur les origines de l'aide au développement ?
Je crois justement que ce discours s'inscrit parfaitement dans la vision que l'aide au développement est une aide humanitaire. La seule chose, c'est que ça n'est pas une aide humanitaire qui répond à des urgences issues de désastres ou de catastrophes naturelles ou autres. C'est une aide humanitaire à un problème fondamental qui est celui de la pauvreté. Et je pense que je me souvenais pas de ce discours de Truman, et j'aurais plutôt considéré que l'aide au développement a vraiment été créée beaucoup plus tard, en 1960, dans une fameuse déclaration des Nations Unies. Mais effectivement, je pense que Truman définit parfaitement ce qu'est l'aide au développement. Et encore une fois, je crois que la dimension humanitaire est extraordinairement présente dans ce qu'il dit.
Et il s'agit de répondre à la question de la pauvreté et aussi déjà des inégalités, Vincent Pradier ?
Oui, alors c'est une aide, effectivement, l'aide au développement. Elle s'inspire un peu du plan Marshall qui avait permis de reconstruire l'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est cette idée d'accompagner des pays qui souffrent de pauvreté ou d'inégalité vers des dynamiques de développement économique, des dynamiques de développement social. D'ailleurs, on voit dès le début qu'on a besoin de qualifier ce qu'est le développement. On en reparlera peut-être. C'est quand même compliqué de qualifier ce qu'est un processus de développement. Je pense que ça répond aussi profondément à une certaine vision du monde, c'est-à-dire promouvoir un monde plutôt libéral, plutôt capitaliste, dans lequel, en fait, un certain nombre de règles de fonctionnement économique vont permettre à certaines populations de sortir de la vulnérabilité. Et qu'en fait, cette aide-là, elle accompagne aussi des mécanismes de coopération entre États dits développés et États qu'on considère comme en voie de développement.
Mais effectivement, comme vous l'avez dit, François Bourguignon, c'est vraiment dans les années 60 que l'aide au développement est pensée, théorisée dans un contexte bien particulier, qui est celui de la guerre froide.
Oui, absolument. C'est, enfin, si on parle de l'aide au développement, il faut parler des deux côtés. Il y a le côté occidental et il y a le côté de l'Est. Donc à l'époque de l'Union soviétique, l'aide au développement a eu lieu des deux côtés. Et c'est vrai que à partir des années 60, il y a une composante politique qui intervient, qui est tout à fait évidente. Mais dans la déclaration des Nations Unies de 1960 et dans cet engagement qui a fait date, qui a été de dire que les pays avancés devaient consacrer un montant à l'aide au développement qui représentait à peu près 1% de leur produit intérieur brut. Dans cette déclaration, il y a quand même une composante et une façon de présenter les choses qui correspond à une définition générale de l'aide au développement, quelle que soit l'origine ou la couleur politique, je pense, des donateurs.
Et justement, qu'est-ce qui est entendu par développement à ce moment-là, dans les années 60, Vincent Pradier, et dans quelle mesure est-ce que cette notion a évolué ?
Alors, c'est une question complexe à répondre en quelques minutes. C'est cette idée, à mon sens, en fait, de favoriser l'émergence de conditions sociales, économiques et démocratiques qui permettent à une majeure partie de la population d'un pays de sortir d'un certain nombre de vulnérabilités. Le système international a ensuite structuré plusieurs types de politiques, on va dire, expérimenté un certain nombre de politiques différentes. Dans les années 50-60, on parlait de développement endogène, par exemple, s'inspirant de ce qui avait été fait dans les pays occidentaux lors des révolutions industrielles, cette idée que finalement c'est par l'industrialisation et une certaine mise en capacité des outils de production locaux ces acteurs-là vont eux-mêmes sortir de la pauvreté. On est ensuite passé dans une dynamique plus exogène. Donc il y a un certain nombre de concepts, mais qui visent globalement, à mon sens, moi je le définis souvent comme ça, le développement, c'est compliqué à définir, mais en tout cas dans la pensée de l'aide au développement, c'est d'une certaine manière permettre à des populations d'accéder à certains fruits ou artefacts de la modernité occidentale, c'est-à-dire ce qu'on considère aujourd'hui comme le mode de vie occidental.
François Bourguignon, sur l'évolution de ce concept de développement ?
Je crois qu'avant tout, le développement, c'est la résorption de la pauvreté. Un point, c'est tout. La définition la plus résumée de l'ensemble, c'est ça. Alors, ensuite, on peut se poser des questions sur les stratégies de développement et de préférer un type d'organisation économique à un autre, préférer une orientation de l'économie vers l'extérieur ou vers l'intérieur, mais ça relève plutôt de la stratégie. Le but est la façon dont on peut évaluer le développement, c'est avant tout de regarder comment a évolué le taux de pauvreté ou la distribution des niveaux de vie à l'intérieur d'un pays. Alors, dans l'évolution du concept, je pense que le grand élément, c'est un élément principal, ça a été le fait qu'on a vu le développement au début, je pense, plutôt de façon agrégée. C'est-à-dire qu'il y avait un accent mis sur la production totale, le revenu total de la population, le produit intérieur brut, plutôt que sur les aspects plus microéconomiques, qui étaient combien de gens sont en dessous d'un certain seuil de consommation, combien de gens sont affectés par des problèmes de nutrition, combien de gens sont affectés par certaines maladies.
Désormais, il y a des indicateurs un peu plus fins, justement. On ne s'appuie plus seulement sur le PIB, mais aussi, par exemple, sur les taux de vaccination, de scolarisation, François Bourguignon.
Oui, absolument. Et je pense que l'évolution, la révolution, d'une certaine façon, ça a lieu plutôt vers la fin des années 70, au moment où on commençait à se diffuser des enquêtes auprès des ménages, auprès des populations, qui justement permettaient de mesurer de façon relativement précise ces éléments-là. Et c'est effectivement à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que ça n'était pas parce qu'un pays voyait sa production totale, son produit intérieur et même son produit intérieur par tête augmenter que systématiquement la pauvreté diminuait et que tout le monde bénéficiait de cette augmentation du revenu moyen. Et je pense que là, il y a eu un virage très important qui a été effectué, en même temps d'ailleurs que d'autres virages dans les stratégies plus strictement économiques de développement.
Oui, quand une étude est publiée en 2010 par 3 chercheurs de l'Université de Copenhague qui estiment que l'aide internationale contribue à 1 point de croissance supplémentaire dans les pays en développement, en réalité, ça nous apprend pas tant de choses que cela, Vincent Pradier, sur l'efficacité de ces politiques d'aide au développement.
Non, parce que, alors d'une part, en fait, et on va y venir, là, les dynamiques de développement sont très différentes en fonction des types de pays et des zones d'intervention qu'on a longtemps qualifiées de Sud, avec un grand S, qui en fait ne veut pas dire grand-chose et dit pas grand-chose des différences économiques et sociales que relèvent ces diversités géographiques. Sur votre question précédente, pour compléter, je pense que, et je suis d'accord sur le fait que les années 70 marquent aussi un tournant dans l'écosystème de l'aide au développement, c'est qu'en fait, à partir de ces années-là, on voit l'émergence d'autres types d'acteurs d'aide au développement, avec une tendance globale de retrait de l'État, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était plutôt les États-nations qui par des coopérations bilatérales fortes, impulsaient des processus de développement, de coopération de développement. À partir des années 70, on voit l'émergence de tout ce qu'on a appelé, ce qui a été décrit hier, l'architecture de l'aide internationale, avec l'émergence des organisations internationales et aussi des organisations non gouvernementales qui deviennent d'une certaine manière des acteurs, des opérateurs de l'aide au développement.
Ici à Ebang, à 180 km de Tombouctou, une petite association, Atlik, a pris en charge l'énorme problème de la sédentarisation d'une fraction touareg dont les troupeaux ont été anéantis par la sécheresse. Aujourd'hui, il faut de l'eau pour vivre et cultiver. Une éolienne vient d'être construite pour tirer l'eau du puits. Pour Sergio, bénévole italien, c'est sûr, la technologie très simple utilisée ici permettra aux Touaregs de prendre le relais.
On n'a pas besoin d'entretien particulier, sauf de la graisse, quelques boulons à changer. Bon, nous, on a formé 3 gars qui sont suffisamment préparés. Ils ne connaissaient pas les boulons, mais maintenant, ils arrivent à serrer, dévisser, et c'est tout pour un éolien.
Pour travailler, le départ, ça a été très dur, mais aujourd'hui, Dieu merci, mes hommes comprennent beaucoup de choses, ils font la culture, ils font du jardinage. Tout le monde, grâce à l'aide de l'association Atlik, tout le monde s'est nourri.
Voilà un reportage de France 3 réalisé au Mali en 1986. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Nous continuons à parler de l'économie du développement et en particulier de l'aide au développement avec Vincent Pradier et François Bourguignon. Alors qui sont aujourd'hui les principaux financeurs de l'aide au développement? Ce sont des États, Vincent Pradier, évidemment les États-Unis en tête.
Oui, alors il y a plusieurs mécanismes de financement du développement au sens large, mais ce qu'on appelle l'aide publique au développement, c'est ce que disait M. Bourguignon, un certain nombre d'États qui se sont engagés, c'est les États qui sont membres du comité d'aide au développement de l'OCDE, à fournir un pourcentage de leur richesse, qui n'a d'ailleurs rarement été atteint par ces États, en aide au développement, en aide publique au développement, et donc qui ensuite financent soit directement par des coopérations bilatérales avec des États, des dynamiques de développement, soit financent des institutions internationales pour qu'elles-mêmes financent des dynamiques de développement, ou financent des acteurs tiers, comme les organisations non gouvernementales, pour faire de l'aide au développement. Donc ça, c'est l'aide publique au développement, et donc on a dans le trio de tête, ou les 5 de tête, on a à peu près toujours les mêmes, c'est-à-dire les États-Unis, on a la France, on a eu la Grande-Bretagne pendant très longtemps, l'Allemagne. Si on prend l'Union européenne, son poids cumulé, elle fait aussi partie des grands donateurs de l'aide publique au développement. Et donc, ce poids-là, c'est effectivement le chiffre que vous mentionnez au début, à peu près 200 milliards de dollars par an d'aide au développement. Je précise qu'il y a d'autres canaux de développement. Je prends en particulier un chiffre qui est compliqué à déterminer, mais le montant d'argent de diaspora, c'est-à-dire ce que les personnes émigrées envoient au pays en termes de volume, on parle de volumes beaucoup plus importants, qui seraient aux alentours de 400-500 milliards de dollars par an.
Et cette aide au développement peut prendre différentes formes. François Bourguignon, ça peut être des dons, ça peut être des prêts, ça peut être des annulations de dettes.
Oui, alors peut-être revenir sur la composition de l'aide au développement. Effectivement, M. Pradier a tout à fait raison de signaler que finalement c'est le G7, hein, c'est les 7 pays les plus développés qui contribuent à peu près 80% de l'aide totale du public au développement. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que Il y a aussi les organismes internationaux. Les organismes internationaux ont un statut un peu particulier. Parce que dans la comptabilité que donne justement le CAD, le Comité d'aide au développement de l'OCDE, les organismes internationaux représentent quelque chose comme 80 milliards de l'aide totale. Et ce qui est important, c'est que ces organismes internationaux sont eux-mêmes financés par les pays, par des nations. Hein, ce sont les contributions de la France, de l'Allemagne, des États-Unis à la Banque mondiale qui permet à la Banque mondiale de donner de l'aide à toute une série de pays. Donc je pense que c'est important de savoir ça, de savoir que l'aide publique au développement, c'est avant tout les pays, mais ça passe éventuellement, comme on l'a dit dans certains cas, par des ONG qui sont des opérateurs, ça passe énormément par des organismes internationaux.
Et sur les différentes formes que prend cette aide au développement, François Bourguignon ?
Pardon, là, j'ai pas compris votre question.
Sur les différentes formes que prend l'aide au développement, puisque c'est intéressant de voir que cela peut être des dons, mais aussi des prêts, avec cette idée de financer des projets qui n'intéresseraient pas les investisseurs privés ou publics d'ailleurs, qui les jugeraient trop risqués. Les prêts sont une part importante de l'aide publique au développement.
Alors les prêts représentent, non, c'est une part importante, mais tout à fait minoritaire. Hein. La part la plus importante, ce sont des dons. Et quand on parle de prêts, il faut bien voir que d'abord ces prêts sont des prêts qui sont accordés aux pays eux-mêmes et pour développer des infrastructures ou des programmes qui sont propres au pays. Il n'y a pas de rapport direct ou de substitution ou de concurrence directe entre ces investissements, ces programmes et des programmes privés, des investissements privés. C'est effectivement plutôt dans la sphère publique. Maintenant, quand on parle de prêts pour le développement, il faut voir que ce sont uniquement des prêts qui sont concessionnels, c'est-à-dire qui sont accordés dans des conditions tout à fait favorables par rapport à des prêts qui seraient obtenus sur le marché. Beaucoup de pays aujourd'hui sont capables de s'endetter directement en émettant des obligations sur les marchés internationaux. Et ces mêmes pays bénéficient de prêts consentis par l'Agence française de développement, par la Banque mondiale, par la Banque africaine de développement. Mais ces derniers prêts sont obtenus dans des conditions radicalement différentes.
Oui, c'est déterminant. C'est déterminant pour un certain nombre de pays d'avoir accès comme cela à ces prêts, Vincent Pradier, parce que ce sont des pays qui n'arriveraient jamais à se financer sur les marchés internationaux.
Oui, alors je complète. Effectivement, il y a des différences en fonction des pays sur les modalités d'aide au développement. La France, par exemple, est un pays qui, alors c'est lié à son inscription en particulier dans l'Union européenne et un certain nombre d'obligations réglementaires, mais un pays qui, dans son aide au développement, prête plus qu'elle ne donne. Contrairement à d'autres pays que peuvent être les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Ce que ça produit indirectement, ces mécanismes de prêt, si on reprend l'exemple de la France, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que la France a une liste de pays prioritaires pour son aide au développement, ce qu'elle considère, ou ce qu'on peut considérer, ou ce que l'OCDE considère comme les pays les moins avancés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde d'année en année, quand on compare la liste des principaux pays récipiendaires de l'aide française publique au développement et les pays prioritaires, on s'aperçoit qu'il y a une différence entre ces deux listes parce qu'effectivement, les pays les moins avancés sont aussi ceux qui sont le moins solvables et donc pour lesquels c'est compliqué, même sur des prêts concessionnels, de prêter de l'argent. Et donc, il peut y avoir notamment des problématiques d'incohérence entre ce que la France souhaite faire en matière de visée politique de son développement et ce que ces canaux de financement lui permettent de faire.
Vous avez évoqué le trio de tête des pays donateurs, les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou la France, ça dépend des années. Qu'est-ce qu'on peut dire du côté des pays bénéficiaires de cette aide ? Quels sont les principaux pays bénéficiaires, Vincent Pradier ?
Alors, moi, je vais parler des pays que je connais de l'aide française. On est plutôt sur des anciens pays colonisés. Le Sénégal, par exemple, apparaît dans les pays bénéficiaires, des pays de la zone ouest africaine, africaines, Madagascar, des anciennes colonies en Asie. Donc on a aussi, et c'est assez logique, puisque ce sont des pays qui, après tout, sont des pays d'influence ou de diplomatie ou d'intérêt économique de la France. Donc c'est plutôt ce type de pays-là qui, pour l'aide française, apparaissent en premier. Et c'est un peu le cas, d'ailleurs, pour un certain nombre de pays donateurs. Si vous regardez les principaux pays récipiendaires des différentes aides publiques occidentales, à quelques exceptions près, on est plutôt sur des zones d'influence ou des sphères d'influence. Donc il y a un lien direct entre l'aide au développement et ce que ça dit de l'influence économique.
France Culture.
On fonctionne avec des moyens qui ne sont pas illimités.
Laisse tomber ton rapport. Explique-leur qu'on doit rester.
C'est quasiment fini, Mambrou. La paix va revenir. Tu regardes pas les infos?
Non. Je suis trop occupé à remonter les cadavres des puits. La paix peut revenir. Les problèmes disparaîtront pas.
Entendez-vous l'écho?
Il va se passer un bon bout de temps avant que ce soit plus une zone d'urgence.
Tiphaine de Roquigny.
Vous l'avez dit, ce sont essentiellement les ONG qui sont aujourd'hui en charge de la distribution de l'aide au développement. Et depuis quelques années, on observe une tendance à la localisation de cette aide. Il y a eu une prise de conscience de la nécessité d'impliquer davantage les acteurs locaux, Vincent Pradier.
Oui, alors il y a un rapport qui date de 2012, qui fait suite au séisme d'Haïti en 2010, qui montrait que sur les 6 milliards d'aides publiques mobilisées pour Haïti, il n'y avait qu'un pour cent qui était allé à des organisations nationales, donc gouvernement, associations nationales. Le reste était allé à l'armée américaine, aux agences onusiennes et puis aux ONG internationales. Donc on le savait, mais il y a un peu cette question-là qui est réapparue de est-ce que c'est très efficace en fait, quand on connaît notamment, quand on regarde par exemple 10 ans après la situation en Haïti, est-ce que finalement l'architecture de l'aide et le financement comme ça d'un certain nombre de programmes de développement via des ONG internationales, est-ce que ça concourt ou pas à l'émergence de dynamiques de développement, quelle que soit la façon dont on les qualifie. Et donc c'est à partir de ce moment-là, notamment il y a vous en parlez, en 2016 il y a eu un grand sommet humanitaire qui s'appelle le sommet d'Istanbul, avec un grand accord qu'on appelle le Grand Bargain, et qui, sur une dizaine de thématiques, prenait 50 engagements, dont un engagement qui était de dire il faut que l'aide internationale transite davantage par des organisations nationales, pour des questions de légitimité, mais aussi d'efficacité, parce qu'il faut bien avoir conscience, que c'est un peu ce qu'on disait là, c'est que l'aide internationale, elle a tendance à partir des pays donateurs, elle peut transiter via des organisations internationales de l'ONU, qui elles-mêmes redistribuent ensuite à des fédérations internationales d'ONG, qui elles-mêmes redistribuent à des organisations nationales ou des branches nationales, qui ensuite elles-mêmes redistribuent à des partenaires locaux, qui in fine mènent des actions auprès des ce qu'on appelle les bénéficiaires. Et comme ça a été dit hier, en fait, toutes ces organisations-là sont de plus en plus managérialisées. Il y a une certaine forme de bureaucratisation, ce qui fait qu'à chaque échelon, en fait, il y a une partie du montant initial qui est donné, qui va dans des frais, ce qu'on appelle des frais administratifs. Et donc, in fine, ça pose la question de est-ce que tout ça, c'est très efficace, ne serait-ce que dans le rapport entre ce qui arrive aux bénéficiaires et ce qui est donné par le donateur.
Les recommandations du sommet d'Istanbul fixaient à 25% l'enveloppe annuelle des fonds qui devaient être gérés par des acteurs locaux de la solidarité. Or, aujourd'hui, ce sont 2% des aides humanitaires qui sont versées directement à des ONG locales. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile, François Bourguignon ?
Oui, mais attendez, avant ça, je crois qu'il faut bien insister sur le fait que l'aide publique au développement n'est pas gérée de façon majoritaire par des organismes non gouvernementaux. L'aide au développement, elle va aux pays, et les gouvernements des pays ont la faculté de gérer cette aide de la façon qui a été décidée en accord avec les donateurs dans certains cas, et dans d'autres cas de façon parfaitement autonome. Pendant très longtemps, la communauté internationale a défendu l'idée qu'une grande partie de l'aide publique au développement devait être distribuée sous la forme de soutien budgétaire. Soutien budgétaire, ça veut dire simplement le fait que les bailleurs de fonds mettent à disposition d'un pays, du gouvernement d'un pays, une somme qui rentre dans le budget du pays et qui est gérée comme les autres composantes de ce budget. Donc l'idée de dire que les organismes, les ONG jouent un rôle primordial n'est pas tout à fait correcte. Maintenant, il est tout à fait possible que dans un pays donné, un gouvernement passe par des ONG pour gérer un certain nombre de ces opérations, mais un gouvernement va aussi directement construire des écoles, directement construire des cliniques, etc. Donc, je crois qu'il est très très important de faire la distinction. C'est d'autant plus important que s'il existe un problème aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, depuis très longtemps, dans l'aide au développement, et pour l'efficacité, ou certains diraient pour l'inefficacité de l'aide au développement, c'est justement que il y a des fuites dans le système et que les gouvernements ne sont pas nécessairement aussi efficaces que ça pour gérer les sommes qui sont mises à leur disposition. Et c'est la raison pour laquelle, dans un certain nombre de pays donateurs, les pays essayent de contourner le gouvernement et de passer par des ONG, souvent soit internationales, soit des ONG locales. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que l'aide publique au développement, c'est une opération qui a lieu entre souverains. C'est un souverain donateur qui donne à un souverain bénéficiaire. Le souverain donateur peut être un organisme international, mais l'opération est entre souverains. Et donc, le pays bénéficiaire peut se plaindre du fait que les bailleurs de fonds accordent de l'aide par des circuits qui ne passent pas directement par eux. Ça, c'est un élément absolument crucial, fondamental de toute la problématique de l'aide publique au développement.
Vincent Pradier, sur les raisons de ces difficultés à localiser l'aide ?
Non, mais je plus soit tout à fait ce qui a été dit, c'est qu'en fait, l'émergence de l'architecture de l'aide avec effectivement une place relative des ONG, ça a été dit hier, même les très grosses ONG sont finalement des petites ou moyennes entreprises. Et puis quand on regarde le budget total de l'aide publique au développement, le budget total des ONG est quand même assez minime. Et une bonne partie de l'aide au développement, c'est du don entre États ou du prêt entre États. Et effectivement, pour des raisons qui ont été invoquées, des questions notamment de difficultés de confiance entre les États occidentaux donateurs et puis les États non occidentaux qui étaient récipiendaires de l'aide, accusés par exemple de mauvaise gestion ou de mauvaise gouvernance, de corruption, etc. On a eu tendance à faire émerger, on va dire, des acteurs contractuels différents ou complémentaires qui sont traduits par l'organisation en acteurs humanitaires et développement que sont les ONG. Et donc avec cette idée de contourner l'État qu'on considérait comme non tiers de confiance ou non capable de gérer l'argent tel que on souhaitait qu'il soit géré. Et donc on a assisté à l'émergence d'acteurs autres que sont les en particulier les ONG, mais aussi tout l'écosystème de l'aide internationale. Hein, on pourrait parler des agences de l'ONU, des boîtes de consultants, etc. La difficulté, en fait, c'est qu'on s'aperçoit que cette émergence-là, la difficulté à localiser l'aide, ça traduit peut-être le fait qu'on est peut-être passé un peu trop vite à côté des États. Et que, des acteurs locaux, hein. Quand on parle d'acteurs locaux, c'est pas forcément des ONG, ça peut être des associations, ça peut être des collectivités territoriales, ça peut être les personnes qui vivent sur place et qui ont des formes institutionnalisées de gestion de la chose publique. Et qu'en fait, par cette tendance à accompagner un secteur tiers, qui n'est pas le secteur issu des pays récipiendaires de l'aide autour de l'aide au développement, on a un peu invisibilisé ceux qui étaient peut-être les plus utiles ou ceux, en tout cas, dont on sait qu'ils ont une responsabilité dans la gestion de ces fonds-là, à savoir les États.
Mais en l'occurrence, on le voit avec la situation à la fois au Burkina Faso et au Niger. Burkina Faso, il y a eu un coup d'État en septembre 2022. Au Niger, c'était en juillet 2023. On voit que les ONG continuent à travailler alors même que la France a suspendu son aide au développement dans ces pays, Vincent Pradier.
Oui, c'est qu'en fait, on a quand même une situation où c'est souvent ça la critique qui est faite aux ONG occidentales, c'est qu'en fait, elles sont tout à la fois pas suffisantes et en même temps, elles sont indispensables. C'est qu'il y a un certain nombre de pays, en particulier au Burkina Faso, au Mali, où en fait, un certain nombre de services publics, dans l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, sont quand même gérés directement ou indirectement par des ONG internationales, c'est-à-dire soit les ONG occidentales telles qu'on les connaît, soit les partenaires de ces ONG-là. Et donc, on a une situation de fait qui correspond à des processus qui s'étendent sur un temps relativement long, 50, 40 ans, où en fait, dans certains pays particulièrement vulnérables, la non-présence de services publics plus ou moins structurés, quels que soient les échelons nationaux, territoriaux, et donc leur incapacité à gérer la chose publique, c'est-à-dire l'accès aux services essentiels, eh bien, c'est traduite par la présence indispensable de ces structures-là. Et donc, c'est-à-dire que même quand l'État, le donateur, retire ses fonds, eh bien, en fait, les ONG, vu qu'elles assurent, notamment dans ces pays-là, des filets sociaux minimum, en fait, elles continuent de travailler, elles sont essentielles à la non-croissance des vulnérabilités.
Quand tu n'entends plus, dans ton cœur trop lourd, battre ton sang noir, voiler les tambours, et quand le soleil, comme une blessure, fais place à la nuit, quand la mort rassure. Faut vivre encore. Combien de ratures, combien de nuits blanches, pour toucher de près ce chant qui monte. Ce qu'il faut de sang pour donner la vie, ce qu'il faut de temps pour toucher l'oubli. Et vivre encore. Vivre encore. Vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi. Vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur. Ce qu'il faut courir pour avoir le souffle, ce qu'il faut sentir au-dessus du gouffre, ce qu'il faut cacher pour un mot d'amour, ce qu'il faut tuer pour revoir le jour et vivre encore. Vivre encore. Vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi. Vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur.
Vivre encore, Bernard Lavillier sur France Culture d'Entendez-vous l'écho, aide au développement, le défi de l'après, c'est notre sujet aujourd'hui. François Bourguignon et Vincent Pradier sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et Félicie Faugère et mise en onde par Dalia.
Pour tenir la scène, prendre des distances, pour tenir la tienne. Et vivre encore. Vivre encore. Vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi. Vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur.
Vincent Pradier et François Bourguignon, nous avons parlé de la difficulté à mesurer l'impact de l'aide publique au développement. Qu'est-ce qu'on peut dire de son efficacité, François Bourguignon, sachant que les indicateurs pour le mesurer doivent être pris avec précaution selon que l'on se fie, comme vous le disiez tout à l'heure, au produit intérieur brut ou à d'autres indicateurs comme le taux de scolarisation ou le taux de vaccination?
Je crois que l'efficacité de l'aide est véritablement le problème majeur de l'aide. Et en fait, on peut même se poser la question sur l'efficacité de l'aide humanitaire et la façon dont sont gérées, dont est gérée l'aide dans des situations extrêmes de catastrophes naturelles. Dans le cas de l'aide au développement, de l'aide publique au développement en particulier, les différents critères qui sont utilisés sont la plupart du temps très critiquables. Il y a un débat énorme dans le milieu de l'aide entre deux camps. Un camp qui essentiellement dit l'aide est absolument inefficace, elle ne fait rien, elle ne contribue pas du tout au développement des pays. finalement, elle est utilisée à des fins qui ne sont pas des fins de développement par les élites locales. Et puis, il y a un autre camp qui dit, ben non, l'aide est tout de même relativement efficace dans la mesure où, même s'il y a des pertes, même si elle pouvait être utilisée de façon beaucoup plus efficiente, néanmoins, elle contribue à améliorer l'éducation, à améliorer la santé, à améliorer les infrastructures d'un pays, à améliorer les structures de services comme la justice ou comme la police.
Vous pouvez nous donner un exemple, François Bourguignon, de l'efficacité d'une politique d'aide au développement qui aurait été menée ces dernières années ?
Je crois qu'un bon exemple, ça a été l'énorme effort sur l'éducation qui a été lancé au moment de la déclaration des Nations Unies sur les qui a créé les objectifs de développement du millénaire, donc en 2000. Juste après, il y a eu une initiative extrêmement importante internationale qui s'est appelée le Partenariat mondial pour l'éducation. Et on a pu constater que dans les 4-5 ans qui ont suivi, la plupart des pays sont arrivés à un taux de scolarisation qui était proche de 100%. La plupart des pays étaient arrivés à un taux de scolarisation qui était à peu près le même pour les garçons et pour les filles. C'était en soi un résultat tout à fait remarquable. Maintenant, on peut dire que peut-être que la qualité n'était pas là. Mais effectivement, on ne peut pas augmenter de façon considérable le nombre d'élèves dans les écoles ou le nombre d'élèves par instituteur sans que la qualité en pâtisse. Mais néanmoins, il y a un progrès qui a été absolument considérable.
Des progrès qui ont été effectués. Alors, vous l'avez dit, il y a ceux qui estiment que l'aide au développement ne sert à rien, ceux qui estiment qu'au contraire, elle est efficace. Et puis, il y a ceux qui estiment carrément qu'elle est contre-productive. Lors du 28e sommet Afrique-France qui s'est tenu à Montpellier en 2021, une entrepreneuse burkinabée, Elda Kohama, s'est adressée à Emmanuel Macron. Écoutez.
Il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. L'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là, rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devriez le savoir. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas.
Ça ne marche pas, Vincent Pradier. L'aide au développement peut empêcher le développement ?
Alors oui, on va dire que dans certaines situations, et ça a été un peu dit hier, notamment là, il y a eu des vraies réflexions depuis les années 2000-2010 sur est-ce que certaines situations d'urgence où l'action humanitaire telle qu'on l'a décrite se déploie, est-ce que là, c'est pas un frein finalement à l'émergence de capacités locales de réponse à la crise et donc c'est tout l'enjeu de la localisation qui a été mentionné avant, c'est-à-dire est-ce que finalement, en voulant répondre à l'urgence, on freine pas des dynamiques de développement. Dans l'aide humanitaire, en tout cas, il y a un concept qui émerge, qui est cette idée de triple nexus, c'est-à-dire cette idée qu'il faut, pour accompagner des dynamiques de développement, pouvoir articuler consolidation ou maintien de la paix, réponse à l'action d'urgence et dynamique de développement. Et donc, ça entraîne derrière un certain nombre de transformations ou de tentatives de transformation à la fois chez les ONG de développement et les ONG humanitaires, si je reprends ma métaphore du début. Ce qui est intéressant quand on regarde les ONG, c'est que on avait d'un côté les marathoniens et les sprinteurs, et on demande aujourd'hui à ces structures d'être un peu des triathlètes, quoi, c'est-à-dire de revoir leur dynamique initiale, développer de nouvelles pratiques et en plus savoir gérer les transitions entre les nouvelles pratiques sportives. Alors qu'à côté de ça, on a par exemple, et ça fait écho un peu au témoignage et ce qui a été dit avant, c'est que on voit l'émergence à côté d'ONG occidentales, d'ONG qui disent ou de structures non gouvernementales qui disent finalement ce système-là est pas du tout efficace. Je pense à une organisation qui s'appelle Give Directly par exemple, qui dit nous il n'y a pas d'intermédiaire ou il n'y a pas de rapport entre le don que vous faites et puis le bénéficiaire. C'est-à-dire que si vous donnez de l'argent, nous on va le donner directement aux gens et on ne va pas demander aux gens de répondre à un certain nombre de critères sur comment l'aide est utilisée. Parce que finalement, tout votre système bureaucratique, au-delà du fait qu'on perd en efficacité dans l'utilisation des fonds avec tous ces niveaux d'intermédiaires dont j'ai pu parler, ça entraîne une dimension de contrôle en fait, de la façon dont on utilise cet argent. Et donc ça reproduit, et c'est un peu ça le témoignage qui, je suppose, que vous avez passé, ça reproduit un peu des formes de colonialité, c'est-à-dire cette infériorisation prétendument naturelle de tout ce qui n'est pas occidental. Et c'est un peu ça les critiques qui sont faites, en tout cas, et qu'on trouve très fortement dans le secteur des ONG, qui révèlent peut-être la question que vous posez.
Oui, et puis l'autre risque, c'est que les ONG poussent à une certaine inaction de l'État. François Bourguignon, c'est aussi une inquiétude qui revient.
Attendez, je ne veux pas parler du cas des ONG. Ce qui pousserait à une inaction de l'État, c'est le fait qu'il existe des ressources qui peuvent être, qui sont gratuites, puisqu'elles viennent de donateurs étrangers, qui peuvent être utilisées pour à des fins de développement à l'intérieur du pays. Donc il y a des efforts qui effectivement ne sont plus nécessaires pour générer ces ressources nécessaires au fonctionnement et au développement de l'économie. Et je crois que ça, c'est vraiment le problème fondamental. Et ce qui est tout à fait bien dit dans le passage, dans le discours que vous venez de passer, c'est le fait que l'aide au développement, quelle qu'elle soit, est une désincitation à des efforts pour générer les ressources dont on a besoin. Et beaucoup plus que ça, c'est aussi, pour certains, quelque chose qui contribue à l'autocratie. Et l'idée est la suivante, c'est de dire si vous êtes dans un pays dans lequel l'État génère des ressources par le biais de l'impôt, l'État est directement redevable à la population de ce qu'il fait avec le revenu des impôts. Si vous êtes dans un pays dans lequel l'État reçoit de l'argent de l'étranger, éventuellement même pas de l'aide publique au développement, mais des royalties payées par des compagnies pétrolières. Dans ce cas-là, la population n'a pas droit de regard sur ou ne voit pas nécessairement ces flux de ressources. Et donc, l'État devient non redevable par rapport à sa population, et c'est ça qui contribue à une gouvernance qui est insatisfaisante et qui permet des dérives qui, elles-mêmes, génèrent plutôt du sous-développement que du développement. Donc, effectivement, toute cette argumentation est tout à fait correcte, elle est importante, il faut la prendre en compte, mais ce qu'on a envie de répondre à cette députée s'adressant
entrepreneuse burkinabé,
c'est qu'éventuellement le Burkina n'a qu'à refuser l'aide. Éventuellement, c'est ce qu'il est en train de faire vis-à-vis de la France. Est-ce qu'il refusera de l'aide venant d'autres sources? Ça n'est pas du tout évident.
Et oui, parce qu'il c'est aussi une bataille d'intérêts qui se joue autour de l'aide au développement.
Il ne s'agit plus seulement d'aide, il s'agit vraiment d'investir, c'est-à-dire prendre du risque, s'engager et attendre bien sûr un retour. Pas qu'un retour financier, l'investissement ça revient de toutes sortes de façons, par un gain culturel, par de l'influence, par aussi de l'influx des choses qui rentrent en France, c'est très important. On a une devise à l'AFD, on dit un monde en commun, s'engager, s'investir dans un monde en commun. Donc, il faut regarder problème par problème. Est-ce que la santé, ça vous concerne? Ce qui se passe dans le reste du monde et ce qui se passe chez nous? Bien sûr que ça vous concerne. Est-ce que les migrations, ça nous concerne? Bien sûr que ça nous concerne. Est-ce que l'éducation dans le Sahel, ça nous concerne? Bien sûr que ça nous concerne. Donc, ce sont tous ces liens et la politique de développement, c'est ce lien. C'est ce qui va permettre de régler des problèmes que nous avons en commun.
Rémy Rioux, le directeur de l'Agence française de développement, à travers l'aide au développement, la France cherche aussi, peut-être d'abord, à protéger ses intérêts, Vincent Pradier?
Bah, disons que je pense que même si ça a été plus ou moins assumé, en fait, l'aide au développement a toujours été une façon pour les pays occidentaux aussi de défendre des intérêts ou de susciter ou de privilégier certains types de collaboration plutôt que d'autres. Donc en fait, cette tentation du vocable qui, a priori, à ma connaissance, on n'a toujours pas en France, on parle un peu d'investissement solidaire, mais c'est pas le nom officiel de l'aide au développement. En fait, ça traduit plus globalement une dynamique qui est ce qu'elle est. C'est-à-dire que l'aide au développement est aussi un outil de diplomatie économique et permet de favoriser à différents endroits des modalités de coopération entre notre pays et puis des pays avec lesquels on a des intérêts. Donc finalement, ça va dans le sens de ce qu'a été l'aide au développement.
François Bourguignon, peut-être sur cette diplomatie économique et cette stratégie d'influence de l'AFD.
Oui, non, enfin, de l'AFD en tant que tel, pas vraiment, mais de façon générale. Je crois qu'il y a quelque chose qui montre bien ce côté politique, appelons-le diplomatique pour être gentil, de l'aide au développement. Quand vous regardez le montant de l'aide publique au développement rapporté au produit intérieur brut des donateurs, l'objectif n'est plus de 1% dans la plupart des pays, ça a été pendant longtemps 0,7%. Le chiffre qui a été moyen, qu'on pouvait observer jusqu'à 1990, c'était de l'ordre de 0,35, vous voyez, la moitié de 0,7. Et arrive 90, fin de la guerre froide. Qu'est-ce qu'on observe sur le montant de l'aide au développement par rapport au produit intérieur brut ? On observe que le pourcentage de 0,35 passe à 0,25. Donc d'un seul coup, et pendant l'ensemble des années 90, l'aide au développement a chuté, et elle a chuté purement et simplement parce que l'un des objectifs de l'aide qui était d'amener dans le camp occidental une partie des pays qui étaient éventuellement attirés par l'autre côté de l'autre superpuissance, cet objectif a disparu et donc l'aide a chuté considérablement. Et il a fallu l'initiative des Nations Unies en 2000 avec cette fameuse déclaration sur le développement au moment de la déclaration du millénaire, créant les objectifs de développement du millénaire, pour qu'effectivement un effort soit réalisé, que l'aide remonte à peu près à là où elle était auparavant, c'est-à-dire à 0,35%. Donc là, on voit bien très directement dans les chiffres qu'il y avait une composante importante. Est-ce que cette composante a disparu ? Certainement pas. Maintenant, est-ce qu'elle est aussi importante qu'elle a été ? Probablement pas non plus, mais c'est quelque chose qu'on doit effectivement prendre en compte. Dans certains cas, c'est vraiment de la diplomatie, dans certains cas, c'est véritablement des liens particuliers qui relient un pays donateur à un pays bénéficiaire, mais c'est effectivement des critères qui ne relèvent pas strictement de critères d'attribution de l'aide, tels que les besoins des pays bénéficiaires et la qualité de la gouvernance des pays bénéficiaires.
Alors, comment rendre aujourd'hui l'aide au développement plus efficace ? On arrive au terme de cette discussion. Est-ce qu'il faut redéfinir cette aide publique au développement ? Vincent Pradier, peut-être mobiliser davantage le secteur privé ? Ça a déjà commencé du côté de la Banque mondiale en particulier ?
Si on regarde, ça a été dit hier, mais si on regarde effectivement le financement des ONG, on a finalement beaucoup d'ONG qui sont encore très financées par l'aide publique, et donc il y a l'émergence de nouveaux mécanismes de financement. Je reste sur ce que je connais, les ONG, ce qu'on constate par exemple, c'est intéressant, en termes de finances, d'action de développement, c'est l'émergence à côté d'acteurs type ONG, de nouveaux types d'acteurs où, je pense par exemple, si on prend l'aide au développement américaine, la plupart les plus grands récipiendaires de l'aide publique au développement américaine sont des entreprises, comme Deloitte par exemple, qui sont une sorte, qu'on appelle ça des International Development Contractors, qui font du développement, de l'aide humanitaire, de développement économique. Et donc on s'aperçoit qu'à côté de ces structures-là ONG, on a l'émergence de nouveaux types d'acteurs et de nouvelles modalités de financement très orientées vers ce qu'on peut appeler de la finance à impact. Cette idée qu'on va mobiliser le secteur privé selon ses modalités de financement, sur de l'intervention de développement. Et donc ça transforme aussi d'une certaine manière les architectures ou les mécanismes d'action de développement, parce que on s'aperçoit qu'en fait finalement, c'est plutôt dans certains types de contextes où il y a, par exemple, des conditions sociales, démocratiques, économiques favorables, qu'on va pouvoir déployer ce type de fonds. Et d'autres types de contextes, vous parliez du Burkina Faso, sont des contextes où c'est plus complexe, en fait, pour ces types de mécanismes. Et donc, en fait, effectivement, du côté du secteur privé, on aussi, parce que ça a été dit, en fait, même si l'aide au développement public augmente, en fait, on arrive un peu à un seuil de saturation et difficulté des pays occidentaux à augmenter leur part du RNB dédié à l'APD, il y a une volonté d'aller mobiliser d'autres acteurs. Mais ça se traduit, dans des conditions très particulières qui vont cibler certains types de contextes au détriment de d'autres.
François Bourguignon.
Oui, alors quand on parle d'efficacité, on parlait d'efficacité de l'aide, on est plutôt en train de parler du montant de l'aide. Quand on examine les perspectives d'augmentation de l'aide, en premier lieu, on se rend compte que les besoins deviennent absolument gigantesques avec le changement climatique. Le changement climatique est en train de changer, si je puis dire, complètement la donne. Quand on parle des besoins de financement des pays en développement, en liaison avec l'adaptation au changement climatique et l'atténuation du changement climatique, on est en train de parler pour l'ensemble des pays en développement de sommes qui sont aux alentours de 2000 milliards. Ce n'est plus 200, les 250 d'aide publique au développement qu'on a. C'est beaucoup, beaucoup plus important. Donc, il est évident que pour arriver à quelque chose qui ressemble au net zéro en 2050, et même pour essayer d'avoir quelque chose de satisfaisant dans les étapes intermédiaires, on a besoin d'augmenter de façon considérable les ressources mises à disposition pour le changement climatique. Et parce que les pays en développement sont plus vulnérables que les autres, il est évident qu'ils doivent avoir une priorité dans la mobilisation de ces ressources. L'autre chose, on a parlé du secteur privé, et là, évidemment, le secteur privé doit jouer un rôle important. Le secteur privé a déjà un rôle, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais des entreprises privées peuvent financer des biens publics dans les pays dans lesquels elles opèrent. Si je prends le cas de Total, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Total finance des écoles, des dispensaires dans des régions dans lesquelles il intervient. Et d'ailleurs, ce sont des sommes qui sont maintenant répertorié dans les statistiques des pays donateurs. Si je me souviens bien, je pense que dans la dernière estimation qui a été faite, en prenant, je crois, 25 pays avancés, ça représente quelque chose comme 25 milliards de dollars.
Donc, mais on comprend très, très bien que c'est loin d'être gagné, si je puis dire, et qu'il y a encore beaucoup à faire pour repenser cette aide au développement et repenser peut-être la place que le secteur privé devrait y occuper. Merci beaucoup à tous les deux, Vincent Pradier et François Bourguignon, de nous avoir accompagnés tout au long de cette passionnante discussion. François Bourguignon, La mondialisation de l'inégalité, c'est le titre de votre ouvrage qui est paru au Seuil. fin d'Entendez-vous l'écho. Merci à tous d'avoir été avec nous. La découverte musicale du jour, c'est Cheap Perfume de Flo Nejeli. Demain, comment le romancier chinois Yu Roy dépeint-il les transformations économiques de la Chine depuis les années 1920? Nous posons la question à sa traductrice Acte Sud, Isabelle Rabu, et au traducteur et économiste Angèle Pinault. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.